Que lire, que voir, comment se divertir ce week-end? Depuis la réouverture des lieux de culture, l'offre est pléthorique. Alors nos deux critiques du jour vont tenter de vous donner des pistes. Bonjour David Caviglioli.
Bonjour.
De l'Obs et Laura Dumez de la revue L'Éléphant. Ravie de vous accueillir autour de la table. Bonjour.
Bonjour.
Pour débattre ce matin du film événement de la semaine présenté en ouverture du Festival de Cannes et sorti en salle le même soir, mardi, Annette de Léos Carax.
First time I fell in love. Woke up next to the girl and skate fast and far.
There she is!
Annette!
This is my baby.
Voilà l'histoire d'amour d'Anne, soprano superstar, et d'Henri, humoriste à succès, jusqu'à ce qu'ils se marient et qu'ils aient une petite fille, Annette. Laura Dumez, vous avez aimé?
Oui. Oui, je trouve que c'est vraiment... Enfin, on ne pouvait pas rêver mieux pour réouvrir une saison cinéma qui a été fortement perturbée pendant un an et demi. Et presque, on va dire, enfin. C'est-à-dire que ça faisait longtemps, moi en tout cas, que je n'avais pas vu un film où, quelques heures après, on est toujours dans l'ambiance. Et pas en s'y projetant, mais c'est vraiment le film qui reste à nous, que ça soit dans les musiques, dans les dialogues.
Sur la forme, c'est très particulier. C'est un film musical. Quasiment tout est chanté. Ça, vous avez accroché, vous?
Oui. Oui, je trouve que ça donne vraiment... Justement, ça change, c'est quelque chose de différent et ça nous plonge vraiment dans un univers qui est très particulier et qui vient amener de la nouveauté en fait.
David Caviglioli.
Le film, il est super inventif. Il y a beaucoup, beaucoup de choses admirables. La liberté de Carax, ça fait plaisir de voir un homme libre. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Il fait ce qu'il veut. Après, bon, il y a des choses qui sont plus gênantes, quoi. C'est un opéra rock. Moi, je suis gêné, par exemple, par le fait qu'on voit que la plupart des personnages chantent en post-synchro. On voit bien que Marion Cotillard a chanté en studio. Ils ouvrent pas assez la bouche. Un opéra, on doit voir les gens chanter. Il manque quelque chose de scénique, alors que le film est très, très théâtral. L'autre chose qui m'a un peu gêné, c'est cette espèce de noirceur shakespearienne qui sonne creux. Je sais pas, c'est trop noir. Il n'y a pas la fantaisie qu'il y avait dans Holy Motors, vu qu'il reprend un peu le personnage de Monsieur Merde, ce fou joué par Denis Lavant. Voilà, le peignoir vert de Adam Driver fait référence au costume de Denis Lavant. Là, il n'y a pas cette fantaisie, ce mystère, et on a affaire, voilà, à du Shakespeare en playback. Des fois, dans les mauvais moments du film.
Laura,
oui, moi je trouve que, justement, je suis pas totalement d'accord, parce que oui, peut-être qu'on peut trouver une critique à faire sur comment ça aurait dû être joué différemment. Et en même temps, il y a quand même quelque chose qui est incroyable, c'est-à-dire que tous les autres chants, quand c'est les acteurs qui chantent, c'est du direct. C'est-à-dire que quand ils ont chanté sur la moto, ils chantent vraiment sur la moto. Ils ont chanté, elle le disait elle-même dans les interviews qu'elle a pu faire là pour Cannes, mais la tête à l'envers, en nageant. C'était,
très acrobatique comme tournage.
C'est ça, c'est vrai, ouais. Que c'était une angoisse apparemment, même sur des moments, parce qu'ils savaient qu'il y aurait des aspérités, qu'elles seraient gardées, que c'était volontaire.
Parlons du casting quand même. Adam Driver, il est exceptionnel.
Moi, je le supporte pas, mais c'est personnel. Je vais pas...
Est-ce qu'il y a de la jalousie là-dedans?
Non, mais je trouve qu'il ne joue plus que des grands génies maudits. Là, je sais pas, c'est très...
Là, il joue un humoriste vraiment lugubre, hein, vraiment,
ouais, vraiment
sinistre.
Son stand-up au début est incroyable. Le début du film, c'est vraiment très prenant. Faut dire que le film s'illumine à la moitié quand on voit apparaître l'enfant. Moi, ça m'a fait penser, vous savez, à ces grands spectacles de magie qu'il y avait à la télé quand on était petit, de David Copperfield qui faisait disparaître la Tour Eiffel, quoi. C'était impressionnant, mais on n'y croyait pas. Il y a trop de choses. Et le film en envoie trop, en fait trop, il se perd. Il y a plein de thématiques. C'est une sorte de Macédoine de tout un tas de choses, de différents genres musicaux, l'opéra, de la fable, de la tragédie shakespearienne. À la fin, pfff.
Laura?
Justement, moi je trouve que c'est cette dualité qui est vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'on peut le prendre pour parler des violences conjugales, de la place des enfants, des relations de couple, des problèmes psychiatriques. Il y a pléthore de sujets qu'on peut utiliser. Mais on peut aussi... ne pas en faire un film politique et juste le prendre pour ce qu'il est, un film opératique avec une scénographie, et finalement on peut être arrêté de demander au cinéma d'être trop réaliste. C'est-à-dire qu'on est quand même là-bas pour aller rêver, pour sortir, pour rentrer dans un univers, et c'est vraiment ça qui est proposé, c'est-à-dire que c'est comme si on rentrait à l'opéra.
Il y a une mise en abîme en permanence.
Oui, au début on croit qu'on est dans un dispositif assez simple où on filme un spectacle, puis tout à coup le public devient acteur du spectacle. Ça c'est mouvant, c'est très réussi. L'autre chose réussie, c'est la musique des Sparks. Il s'avère que tout le monde était fan des Sparks depuis 30 ans. Moi personnellement, j'en avais jamais entendu parler.
On s'en souvenait pas, mais voilà.
Voilà, ce que je regrette,
hein,
la musique est vraiment excellente. Je voudrais aussi saluer tout le travail du décorateur Florian Sanson, qui est un décorateur exceptionnel, et de Caroline Champetier, qui est la reine un peu des chefs-op, et le film est magnifique, il faut le dire. C'est un mélange de réussite et de ratage, ce qui n'était pas le cas d'Holly Motors.
Palme d'or ou pas, pour finir?
Palme d'or pour certaines parties du film, mais il y en a d'autres où je me suis tellement fait braire que je donnerais la palme de plomb.
À vous de juger, Annette de Léos Carax est sortie au cinéma cette semaine. La palme sera décernée la semaine prochaine, le samedi 17 juillet. Encore quelques idées avec vos coups de cœur, messieurs, dames. Le vôtre d'abord, Laura Dumais. C'est une exposition à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Elle s'appelle Renaissance.
Ouvre-feu dans 10 minutes. Regagnez vos logements.
Tout était pensé pour rendre la chaleur supportable.
Cette crise, elle nous apprend que nous devons absolument concentrer toutes nos forces sur la préparation de la crise climatique qui est déjà là.
Pourquoi ce coup de cœur, Laura ?
Non, parce que déjà, quelque chose d'assez amusant, c'est-à-dire que l'exposition, elle a été pensée en amont de la pandémie. Elle est aujourd'hui présentée à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, et on ne peut pas nier qu'elle a pris une dimension assez incroyable avec 2020-2021. Et elle a un but très simple qui est de libérer les imaginaires, parce qu'elle nous conduit dans un cheminement entre immersion et introspection. Et pour moi, c'est une vraie prescription, en fait. Parce que pour imaginer demain, on se rend bien compte qu'on en manque cruellement aujourd'hui d'imagination. Donc l'exposition, elle se passe en plongeant le visiteur dans trois époques, trois scénarios. Il y a trois futurs plus ou moins proches, 2023, 2029 et 2045. Et dans chaque tableau, le visiteur est obligé de devenir acteur, il doit jouer un vrai rôle. On se rend vraiment compte de notre impact et de qui on est.
Renaissance, une expo à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. 12 euros l'entrée plein tarif. Pour les non-parisiens, c'est possible également en ligne pour 3,90 euros. Votre coup de cœur, David Caviglioli, un livre intitulé Harvey, d'Emma Klein.
Pour ses victimes, c'est le soulagement. Harvey Weinstein dort enfin en prison.
Le producteur vient d'être condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle.
C'est un roman qui raconte les dernières 24 heures d'Harvey Weinstein. Avant le verdict de son procès, il est dans une maison dans le Connecticut et il pète un plomb tout seul dans cette maison. Il a aucun sentiment de culpabilité, il manque de s'étouffer avec des M&M's. Et à un moment, il voit dans le jardin d'à côté un vieux monsieur et il se dit « c'est Don DeLillo ». Et là, il se dit « je vais revenir » en adaptant « White Noise » de Don DeLillo, le roman inadaptable, le roman expérimental américain. Et il se rend pas compte qu'il va mourir, qu'il est fini. Il se fait des injections antidouleurs. Il entre dans des rêveries de fumeur d'opium. Il y a un moment dans le roman où chaque phrase devient drôle. C'est incroyable. Et par ailleurs, ça m'a fait penser, ce serait mon deuxième coup de cœur, un vieux roman d'un anglais, un auteur anglais, Evelyn Waugh, qui s'appelait L'épreuve de Gilbert Pinfold. Pareil, un homme qui devient fou et on s'en rend compte petit à petit. Donc deuxième coup de cœur, L'épreuve de Gilbert Pinfold par Evelyn Waugh.
Et le premier, c'est Harvey d'Emma Klein aux éditions de la Table Ronde.
Bien sûr.
C'est la recommandation de David Caviglioli de Loves. Merci à vous.
Merci.
Merci aussi à vous, Laura Dumais de L'Éléphant, nos partenaires pour la Tribune des Critiques. Merci.
Merci.